Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech et chérubin Gabi Dorsil. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 5 janvier 2017. Au sommaire ce soir, à Kinshasa, le mouvement de libération du Congo va signer l'accord global et inclusif. Pendant ce temps, Lubumbashi Gabriel Kyungu Wakumwanza était entendu aujourd'hui au palais de justice. On l'accuse d'offense au chef de l'État.
Au Niger, nouvelle reddition des combattants de Boko Haram. Une vingtaine a décidé cette semaine d'abandonner la lutte dans la région de Difa.
Nous disons que c'est une dynamique et puis rien ne va nous arrêter. Nous sommes confiants, nous pensons que, Inch'Allah, d'ici peu, la paix va revenir de cette région.
Quand d'anciens dirigeants du Nigeria confondent privilèges et talents. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, donc tout de suite le journal. On commence par le Tchad, qui annonce la fermeture de sa frontière terrestre avec la Libye. Dans un message radio-télévisé, le Premier ministre Albert Pahimi Padake évoque une potentielle grave menace d'infiltration terroriste. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Niger, le ministre de l'Intérieur annonce qu'une vingtaine de combattants de Boko Haram opérant dans la région de Difa se sont rendus aux autorités. Cette reddition intervient 10 jours après la reddition d'une trentaine d'autres. On fait le point tout de suite avec Dili Diko.
Au total, une cinquantaine de combattants de Boko Haram se sont rendus depuis le 27 décembre. Lors d'un entretien diffusé sur la télévision publique Télé-Sahel, le ministre Mohamed Bazoum a expliqué que les flux de reddition allaient augmenter. Il s'agit là de la deuxième vague de reddition. Fin décembre, une trentaine de combattants de Boko Haram de Difa avaient déposé les armes. Frontalière du Nigeria, la ville de Difa est l'un des bastions de Boko Haram. Cette région abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés. Le ministre Bazoum a expliqué ces redditions par le nouveau rapport de force instauré depuis juillet entre Boko Haram et les forces de défense et de sécurité nigériennes. Le Niger, le Tchad et le Nigeria ont lancé en juillet des opérations de ratissage contre les fiefs de Boko Haram. Pendant son entretien, le ministre a noté la présence d'éléments de Boko Haram s'entraînant près du lac Tchad, une région marécageuse située à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria.
Sachez par ailleurs que 3 adolescentes soupçonnées de planifier une triple attaque suicide dans une ville du nord-est du Nigeria, régulièrement visée par Boko Haram, ont été abattues. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un responsable local. Le président du conseil municipal a déclaré à l'AFP que les jeunes filles qui portaient des explosifs avaient refusé de s'arrêter pour un contrôle de sécurité.
Le mouvement de libération du Congo va signer l'accord global et inclusif après échange ce jeudi avec les évêques catholiques. Eve Bazaïba, secrétaire générale du parti de Jean-Pierre Bemba, a dit que son parti va signer le texte. Le MLC avait jusque-là dénoncé l'accord conclu entre la majorité présidentielle et le rassemblement. On écoute Eve Bazaïba.
Le Front considère que ces compromis politiques, c'est aussi le fruit de son travail. Donc le Front ne peut pas constituer un obstacle à la mise en œuvre de ces compromis. C'est une question pour nous de nous rassurer que de manière efficiente, effectivement, ces compromis vont être mis en œuvre dans toutes ces échéances. C'est pourquoi le Front souhaite jouer un rôle prépondérant dans l'institution qu'on appelle l'institution de contrôle, qui est le comité national de suivi de mise en œuvre de l'accord.
Eve Bazaïba du MLC au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
On reste en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, où un impressionnant dispositif policier était visible devant le palais de justice. C'est ce matin qu'a eu lieu l'audition du député provincial Kyungu Wakumwanza, opposant au président Joseph Kabila. Il est accusé d'offense à la magistrature suprême de la République. Compte rendu sur place de notre correspondant Narval Mabila.
Gabriel Kyungu Wakumwanza arrive au palais des justices, très serein, accompagné de ses avocats et de sa femme. Il entre au palais des justices, comme il nous avait dit à la veille.
Je ne peux pas m'empêcher de répondre à l'invitation du parquet, de l'avocat général. Donc, je confirme.
11h10 commence son audition. Les journalistes sont mis à l'écart, hors du périmètre de sécurité. Que le général Jean Bosco Galenga tente d'expliquer la raison de ces dispositifs.
Vous savez que cet événement a été précédé par un jet de traque dans la ville. Le traque qui menace menaçait, dont l'esprit menaçait la sécurité dans cette ville de Lubumbashi. Et la police s'est déployée en dispositif préventif.
Pour la première fois, la police a été professionnelle en laissant hors du périmètre de sécurité les mamans s'exprimer en soutien au Baba du Katanga par des chansons, même sous une pluie battante, elles ont chanté. Kyungwa Kumwanza sort du palais de justice, ce sont des acclamations. Seuls ses avocats peuvent parler. Maître Somville Mukendi.
La procédure a été respectée, ça s'est passé d'une manière détendue. Baba, notre coordonnateur, a fait valoir ses moyens de défense. Nous sommes toujours à la disposition de cette justice à laquelle nous faisons encore confiance.
La prochaine audition est fixée sine die. Entre-temps, Kyungwa Kumwanza est attendu à Kinshasa pour la poursuite des négociations qui est sous l'égide de la CENCO. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Issa Ayato, le tout-puissant patron de la Confédération africaine de football, la CAF, pourrait bientôt faire face à un juge égyptien pour abus de confiance. Selon la presse égyptienne, l'autorité de régulation en charge des compétitions lui reproche d'avoir violé la loi égyptienne dans l'attribution des droits de retransmission de la CAN. Abdourahmane Dia.
L'information révélée par le site d'information égyptien kingfoot.com fait état d'une enquête ouverte par l'autorité de régulation des marchés. Dans un rapport, il lui est reproché d'avoir attribué à la compagnie Lagardère Sport les droits de retransmission de la CAN sans que l'offre ne soit ouverte à d'autres pour s'assurer d'une compétition juste et équitable. Selon le document, Lagardère obtient les droits pour 12 ans à compter de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 14 janvier prochain au Gabon. L'organe de régulation demande l'annulation de ce contrat car il porterait atteinte à l'économie égyptienne. La CAF a réagi à travers un communiqué parlant d'informations erronées. Elle précise que son contrat avec Lagardère n'enfreint pas les lois égyptiennes ou internationales et se dit disposée à collaborer avec toutes les instances africaines ou non africaines. Âgé de 70 ans, Issa Ayatou dirige la CAF depuis bientôt 30 ans. Il en est à son 7e mandat et rien ne lui empêche de se présenter pour un 8e mandat.
La Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a dénoncé aujourd'hui dans un communiqué la radiation définitive mardi par les autorités burundaises d'ITECA, la plus ancienne ligue burundaise des droits de l'homme. Pour la FIDH, il s'agit là d'un point de non-retour pour un pouvoir burundais totalitaire, répressif et meurtrier. L'organisation attend désormais la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a 15 jours pour prendre des sanctions à l'encontre des plus hauts responsables burundais.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Russie a-t-elle interféré dans l'élection américaine? Le secteur du renseignement est en tout cas convaincu et a défendu son point de vue ce jeudi lors d'une audition au Congrès. Le président élu Donald Trump, lui, est toujours sceptique face à ces accusations. Salwa Jafari nous en dit plus.
Les services américains de renseignement persistent et signent les responsables du gouvernement russe sont derrière l'ingérence dans l'élection américaine. Jack Reed, membre de la commission du Sénat sur le renseignement.
Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais il semble qu'il n'y a aucun doute sur l'implication de la Russie dans ces intrusions. Les meilleurs cyber-opérateurs russes sont aussi insaisissables et difficiles à identifier que n'importe quel autre opérateur dans le monde. Mais dans ce cas, la détection et l'attribution n'étaient pas si difficiles. Detection and
attribution were not so difficult. Par ailleurs, le directeur du renseignement américain James Clapper, qui coordonne les 17 agences d'espionnage américaines, a soulevé que ces services ont décelé des activités russes destinées à saper la confiance du public dans les institutions et la confiance dans l'information. De son côté, le président élu Donald Trump continue de désavouer le renseignement américain. Hier, il a réfuté toute implication russe dans l'élection qui l'a conduit à la Maison-Blanche.
Toujours aux États-Unis, Barack Obama poursuit son offensive pour la sauvegarde de la loi phare de son administration, la loi sur la réforme de la santé, communément appelée Obamacare. Au lendemain d'une rencontre avec les démocrates du Congrès, le président américain a adressé une lettre ce jeudi à ses concitoyens, lettre où l'Obamacare figure en tête de liste. Monsieur Obama se dit fier d'avoir construit de nouvelles fondations pour l'Amérique. Cependant, la plupart de ses réalisations sont menacées par l'arrivée prochaine à la Maison-Blanche de Donald Trump. Trump, soutenu par une majorité républicaine dans les deux chambres du Congrès.
Nouveau front dans la lutte contre le groupe État islamique. Les autorités irakiennes cherchent maintenant à reprendre les zones proches de la Syrie encore contrôlées par les djihadistes. Daesh, qui fait face à une coalition près de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, doit aujourd'hui défendre ses positions dans l'ouest de la province d'Al-Anbar, où Bagdad a déjà repris deux grandes villes, Ramadi et Fallujah.
Nul n'est au-dessus de la loi. C'est le cas en Israël où la police a interrogé le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour la deuxième fois en une semaine sur des cadeaux qu'il est soupçonné d'avoir reçus illégalement de la part de riches hommes d'affaires. Les médias israéliens qui ont relaté l'information précisent que l'interrogatoire s'est déroulé aujourd'hui en la résidence du chef du gouvernement dans le centre de Jérusalem. Cependant, la police a refusé de confirmer. Les médias ont chiffré la valeur totale des cadeaux qu'aurait reçu M. Netanyahou à des dizaines de milliers de dollars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur notre site internet voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Eric Manirakiza.
Plus de vols d'Air Algérie sur Abidjan à compter de demain. Selon l'Eco News, cette compagnie y effectuera le dernier vol et sans retour. Pourtant, elle opérait sur cette ligne depuis le 20 décembre 2013 sans aucune concurrence. Mais un faible taux de fréquentation enregistré a motivé la décision. Au Cameroun, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a décidé de transformer la Société nationale d'investissement en une véritable holding pour gérer de fonds d'investissement. Cette restructuration est calquée au modèle marocain dont la holding contrôle en effet de grands groupes du royaume. Enfin, l'Inde veut constituer un nouveau fonds africain à la mi-2017 et sera clôturé en 2018. Doté de 100 à 150 millions de dollars américains, sa firme d'investissement vise à injecter l'argent dans des groupes africains aux revenus moyens dans les secteurs de l'agriculture, de la finance et des technologies financières. L'attention particulière porte sur le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda, la Tanzanie et le Ghana. La stratégie globale de New Delhi est d'augmenter l'encours de ses placements en Afrique à 3,5 milliards de dollars américains à l'horizon 2024.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
On commence avec la République démocratique du Congo qui a essuyé une défaite en match amical.
Les Léopards battus 2-0 en match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était ce jeudi à Yaoundé. On rappelle qu'à la CAN au Gabon, la RDC va livrer son premier match face au Maroc. Ce sera le 16 janvier. De son côté, le Cameroun débute la compétition face au Burkina Faso le 14 janvier.
L'Ouganda dévoile sa liste des 23 pour cette CAN.
Eh bien, l'entraîneur de l'Ouganda, Milutin Zredovic, a communiqué sa liste des 23. Et le technicien serbe qui a qualifié l'Ouganda pour la première fois depuis 39 ans pour une phase finale de la CAN, il a notamment inclus dans cette sélection le jeune attaquant de 18 ans, Mohamed Chaban du FC Onduparaka, l'un des trois novices de ce groupe. Parmi les joueurs vedettes de la sélection figure le gardien de Nice Onyango, vainqueur de la Ligue d'Afrique des Champions avec les Mamelodi Sundowns. On rappelle que l'Ouganda jouera dans le groupe D avec l'Égypte, le Ghana et le Mali.
Et au Zimbabwe, le gouvernement donne un coup de pouce aux Warriors.
Oui, le Zimbabwe, au bord de la ruine financière, a débloqué en urgence une subvention d'$1 million pour faire taire la grogne dans son équipe nationale qui dénonce les conditions de sa préparation pour la CAN. Ces derniers jours, les guerriers, ainsi que les appellent leurs supporters, avaient refusé de s'installer sur un site de leur fédération jugé de qualité trop médiocre, selon la presse locale.
Nicolas, qui sera le joueur de football africain de l'année 2016 ?
Oui, la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football se déroule ce soir à Abuja. Trois finalistes, le tenant du titre, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Il est également attaquant au Borussia Dortmund. Face à lui, l'Algérien Riyad Mahrez qui a réussi une saison fantastique avec Leicester. Et puis le Sénégalais Sadio Mané, auteur également d'une excellente saison avec Southampton. Il avait été transféré à Liverpool pour 40 millions d'euros, une somme record pour un footballeur africain.
Et on termine avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
LeBron James grippé, Kevin Love et Kyrie Irving absents, Cleveland est tombé de haut devant son public face à Chicago, 106 à 94. Golden State a enchaîné une cinquième victoire de suite, la 31e de la saison, mais a souffert face à Portland pour s'imposer 125 à 117.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Niamey.
Revenons sur ces cas de reddition des membres de Boko Haram au Niger. Ce jeudi, on a appris qu'une vingtaine de combattants nigériens du groupe djihadiste nigérian de la région de Difa, au sud-est du pays, se sont rendus aux autorités. Il y a 10 jours, une trentaine d'autres combattants avaient abandonné le groupe terroriste dans la même région. Qui sont ces membres de Boko Haram qui se rendent? Réponse avec Lawali Dandano, il est le gouverneur de la région de Difa.
Les repentis Boko Haram sont des jeunes qui sont partis du côté de Boko Haram, qui ont été trompés à un moment de leur vie, mais qui aujourd'hui ont déposé des armes.
Et vous avez pris un décret en ce début d'année, notamment concernant la réglementation de la circulation dans la zone. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce décret-là?
Oui, donc, par rapport à la situation, nous avons pris des mesures. Nous avons allégé les horaires par rapport au couvre-feu. Avant le couvre-feu, pour les véhicules, c'était de 19h à 5h du matin, nous l'avons ramené à 20h. Tout ça, c'est pour faciliter vraiment, et ce que je disais, entre guillemets, la vie. C'est pour rendre la vie plus agréable et puis permettre aux gens de s'occuper de leur commerce jusqu'à 20h. Également, nous avons autorisé la circulation de ce qu'on appelle les tricycles, les taxis, les mototaxis. Donc, nous les avons autorisés dans les départements de Difa, Guingimi, Meni, dans tous les départements de la région. Donc, c'est des mesures d'accompagnement.
Est-ce à dire que vous êtes confiant en ce qui concerne la situation sécuritaire?
Ben, écoutez, nous disons que c'est une dynamique et puis rien ne va nous arrêter. Nous sommes confiants, nous pensons que, Inch'Allah, d'ici peu, la paix va revenir de cette région. Et les forces de défense et de sécurité ont le soutien des plus hautes autorités de la République. Ils sont en train de faire un travail formidable sur le terrain. Également, nous, du côté administratif et du côté civil, on a notre partition à jouer et Inch'Allah, on compte. Ça, et puis, Inch'Allah, la paix va revenir dans la région de Difa bientôt.
Est-ce que les redditions, c'est par groupe ou bien il y a d'autres qui se sont rendus individuellement?
Vous savez, écoutez, ces jeunes-là qui sont partis, je suis sûr qu'ils sont, ils ont des regrets. Ils regrettent pourquoi ils sont partis du côté de Boko Haram. Donc aujourd'hui, malgré que beaucoup cherchent à les influencer, à les empêcher de revenir, ils sont en train de rentrer en groupe. Et je vous assure que dans peu de temps, on va recevoir un bon nombre de combattants qui vont déposer ça.
Pour vous, c'est un signe que la bataille contre le groupe islamique est en train d'être gagnée par les États de la région?
Vous vous souviendrez que le chef d'État, dans un discours, a dit que le Niger sera le tombeau de Boko Haram. Et là, je pense qu'on n'est pas loin de cette situation. Et Inch'Allah, on va gagner la guerre. Dans tous les cas, il ne peut pas gagner.
Le gouverneur de la région de Difa, Lawali Dandano, joint par Bagassi Koura.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République centrafricaine, c'est la consternation au lendemain de l'annonce de la justice française concernant l'enquête sur les cas de viol présumés sur mineurs par des soldats de la force Sangaris. La justice française a dit cette semaine n'avoir pas trouvé de preuves pour de telles accusations. Freeman Sipila fait le point de Bangui.
L'annonce de la justice française a suscité de nombreuses réactions dans la capitale centrafricaine. Pour l'homme de la rue, la France n'a pas joué franc jeu dans cette affaire.
Dire qu'il n'y a pas de preuves, je crois que ça ne rendrait pas service à la communauté centrafricaine, aux familles centrafricaines qui ont vu leurs soeurs violées. Il faudrait que la France, qui est un état de droit, un état qui respecte la légalité, puisse approfondir les enquêtes encore davantage, rassembler les preuves, punir les auteurs.
Aujourd'hui, la justice française pense que tout ce qui a été mené comme enquête jusqu'à l'aboutissement, les informations ne sont pas avérées. Et je suis franchement désolé.
La justice française n'a pas très bien fait son travail. Elle cherche à couvrir seulement leur souveraineté, leur intérêt, leur personnalité.
Ça ne me surprend pas. Ça ne fait que me rappeler ce que les Français pensent de nous.
La société civile centrafricaine affirme ne pas partager ce point de vue sur l'absence d'éléments de preuve. L'avocat Barthélémy Mathias Moroba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, propose que les victimes soient entendues de nouveau.
Nous ne partageons pas malheureusement le point de vue de cette justice. Pour nous, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore des victimes qui sont abandonnées et qui attendent que la justice soit rendue. Les moyens doivent être mis à disposition pour permettre à cette victime-là de s'exprimer. Et c'est ça que nous sommes en train de déplorer. Et il fallait aussi que l'État centrafricain puisse s'impliquer dans cette affaire. Parce qu'il s'agit de l'exploitation des enfants centrafricains par des militaires, des sangaristes qui sont des Français, qui viennent ici dans une autre mission et qui outrepassent leur mission pour faire n'importe quoi sur les petits-enfants de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter ça.
Pour Apollinaire Mbessa, député de Dédé Mokouba, dans la préfecture de la Mombéré-Kadéi, ce ne sont pas les preuves qui manquent.
C'est un grand étonnement pour moi d'écouter ces pareilles réactions. Parce que depuis que la force onusienne est chez nous ici, il y a un peu plus de 3 ans, force sangariste c'est surtout, nous avons toujours palpé de doigts les preuves. Même si on s'approche des services des droits de l'homme, toutes les associations, le groupe des femmes passé par là, ce sujet n'est pas à nier, c'est bien une réalité.
Les autorités centrafricaines se réservent encore de tout commentaire. Présenté comme un succès par le ministère français de la Défense, l'opération Sangaris a quitté la Centrafrique fin octobre 2016 en laissant derrière elle plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, y compris sur des mineurs. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Tchad, le mouvement patriotique du Salut, parti au pouvoir, s'insurge contre la mise sur pied d'une plateforme dénommée Mouvement d'éveil citoyen, regroupant les groupes de la société civile, les syndicats et les partis politiques. Dans un communiqué publié mercredi, le parti au pouvoir accuse cette plateforme d'avoir des objectifs séditieux et d'être de connivence avec les mouvements armés. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Dobian Assingar, un membre de la plateforme MECI.
Le Tchad a perdu tout ce qu'il y a comme valeur de la société et valeur républicaine. Toutes les institutions sont détruites, les valeurs morales sont détruites. Les contre-valeurs sont devenues aujourd'hui les valeurs de la société. Le vol, le mensonge, le faux, le viol, l'enrichissement illicite, bien d'autres mots que nous ne pouvons pas, que je ne peux pas tout citer ici. Mais qui ont remplacé en fait les valeurs d'une société. Donc on a dit il faut créer un mouvement fort qui regroupe donc tous les partis politiques, la société civile, les jeunes, les femmes, les députés, les journalistes, les personnalités ressources. Tout ce monde-là, aujourd'hui, se retrouve dans ce mouvement qui fait peur.
Alors, le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, accuse votre plateforme de ne pas répondre aux exigences de la charte des partis politiques et celle des syndicats et associations.
Il n'y a pas de charte de partis politiques. Alors qu'on nous dise aussi qu'il y a eu une charte des mouvements des citoyens. Les citoyens sont des citoyens qui se retrouvent autour d'une idée et des valeurs qu'ils défendent. Mais il n'y a pas une charte du citoyen.
Le MPS accuse votre plateforme d'avoir des objectifs séditieux et même d'être en connivence avec les mouvements armés. Qu'en dites-vous?
Ben c'est parce que le mouvement est fort. Et si vous lisez bien le communiqué, ils disent qu'il est surprenant que des organisations aux objectifs différents fassent aussi ensemble. C'est ça la peur. La peur, elle est là. Parce que 64 organisations, personnalités, qui se regroupent, ont signé aujourd'hui la plateforme, quand ils ont vu, ça leur fait peur, simplement. Donc c'est de l'intimidation pour que ceux qui ont peur puissent avoir peur, et donc ils lâchent, et c'est aussi une façon pour dire que, bon, si on utilise le mot rébellion, il y en aura qui vont avoir peur, et puis bon, on va nous transformer comme mouvement illégal, mais nous savons déjà que le gouvernement s'apprête à suspendre le fonctionnement des organisations de la société civile et des syndicats avec la réunion que le chef de l'État a eue avec les partis politiques le 26 décembre. Mais non seulement ça, mais il se prépare aussi à procéder à des arrestations massives de leaders des partis politiques et de la société civile dans ces jours-ci. Et non seulement ça, il y a un plan machiavélique d'assassinat ciblé des leaders des partis politiques et de la société civile qui est mis en œuvre depuis novembre 2016. Nous ne l'avons pas dit. Et comme ils ont maintenant sorti le communiqué, ils ont ouvert la boîte à Pandore, nous aussi on l'ouvre.
C'était Dobiana Singar, membre du mouvement d'éveil citoyen, joint à N'Djamena au Tchad. Nous avons tenté de joindre Mahamat Zen Bada Abbas. Il est secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Nous avons tenté de le joindre au téléphone sans succès.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali et à cause de la mauvaise saison agricole, les paysans et les femmes maraîchères de Baguineda craignent que la famine ne s'installe dans leur commune et ils ont lancé avec les populations locales des SOS à ce sujet. Kassim Traoré s'est rendu sur place à Baguineda.
Baguineda est située à 25 km de Bamako. Elle est la zone agricole la plus proche de la capitale, avec une maîtrise d'eau pendant toute l'année.
Je m'appelle Sambou Konate, paysan à Congo Baguineda. Cette année, la récolte du riz n'a pas été bonne à cause d'une maladie. Elle a attaqué nos champs de riz. J'ai cultivé 1 hectare. Au lieu de 100 ou 80 sacs de padi, je n'ai eu que 6 sacs. Ces 6 sacs décortiqués ne dépassent pas 2 sacs de 100 kg de riz. Imaginez ma perte.
Les premières victimes de cette mauvaise saison agricole s'appellent les femmes. Certaines d'entre elles parlent d'une double perte.
Je suis Amidjara.
Moi, je suis Amidjara de Tayouma. Nous avons des difficultés cette année à faire le maraîchage parce qu'il n'y a pas d'eau dans les canards. Les tomates, les oignons et aubergines que nous avons déjà plantées sont mortes parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais la terre aussi ne donne pas cette année, le riz aussi n'a rien donné, alors que nous cultivons sur le même espace depuis des années. Mais cette année, on n'aura rien. La famine s'installe chez nous.
Et pourtant, plusieurs jeunes de Baguineda avaient fondé beaucoup d'espoir sur la saison agricole passée. La déception fut grande pour eux.
Je m'appelle Sekouba Djara de Suntou Gumba numéro 1. Cette année, ça a été la déception. Les champs de riz n'ont pas reçu. Les 100 d'un hectare qui peuvent donner 100 sacs n'ont donné que 4 sacs, soit 6 ou 10 par endroit. À Baguineda, aujourd'hui, c'est la disette. La famille est la conjoncture. On se prépare pour la contre-saison, mais on a peur d'avoir de l'eau parce que le grand canal est en réparation. Si on ne fait pas de contre-saison, on va mourir de faim cette année.
Comme le malheur ne vient pas seul, cette année aussi, le canal d'irrigation de la localité est en réfection, ce qui veut dire que la contre-saison ne sera pas possible.
Je me nomme Oumou Samake de Tchema. Cette année, c'est la galère. On n'a rien. La culture du riz, la contre-saison, rien ne marche. On se demande quoi faire. Nous avons des enfants à nourrir. On ne connaît que l'agriculture. Et voilà que tout ce qu'on a semé a été un échec. Tous les grands paysans n'ont pas eu plus de 40 sacs pour des gens qui cultivent 5 hectares. C'est la catastrophe. Pour des investissements de 300 à 600 000 francs CFA, si tu n'as pas 50 000 et dire qu'on n'a pas d'eau dans le canal pour la contre-saison. Nous demandons de l'aide à toutes les bonnes volontés.
Face au manque d'eau dans le canal d'irrigation, certaines femmes ont creusé des puits pour faire le maraîchage avant la saison de chaleur.
C'est Amnata Damele de Moufa. Nous avons fait des tubercules, des oignons et du haricot. On a été obligé de creuser un puits parce qu'il n'y a pas d'eau dans le canal. Ce puits-là aussi va s'étaler vers le mois de mars. C'est pourquoi nous demandons de l'aide afin qu'on puisse nourrir nos familles. Les cultures de riz de nos maris n'ont rien donné.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Rochad Smith, à présentation, Chérubin Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste ensemble sur Facebook et sur voafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.